de l'interprétation de l'Écriture. On ne cesse de répéter que l'Écriture sainte est la parole de Dieu et qu'elle enseigne la véritable béatitude et la voie du salut. Mais au fond, on est très éloigné de penser sérieusement de la sorte et il n'y a rien à quoi songe-moi le vulgaire qu'à conformer sa vie aux enseignements de la Sainte Écriture. Ce qu'on nous présente comme la parole de Dieu, ce sont le plus souvent d'absurdes chimères. Et sous le faux prétexte d'un zèle religieux, on ne veut qu'imposer à autrui ses propres sentiments. Oui, je le répète, ça a été de tout temps le grand objet des théologiens d'extorquer au Livre Saint la confirmation de leurs rêveries et de leur système, afin de les couvrir de l'autorité de Dieu. Pénétrer la pensée de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit, il n'y a rien là qui excite en eux la moindre scrupule ou qui puisse arrêter leur témérité. S'ils ont une crainte, ce n'est point d'imputer quelque erreur au Saint-Esprit et de s'écarter de la voie du salut. C'est uniquement d'être convaincus d'erreur par leurs rivaux et de voir ainsi l'autorité de leurs paroles affaiblie et méprisée. Certes, si les hommes reconnaissaient au fond de leur âme la sainteté de l'Écriture, on verrait un grand changement dans leur manière de vivre. La discorde, la haine ne régneraient pas dans leur cœur et nous n'aurons pas à déplorer cet aveugle et téméraire désir qui les pousse à interpréter l'Écriture et à innover sans cesse en matière de religion. Ils ne reconnaîtraient une doctrine comme consacrée par les livres saints qu'après l'y avoir lu en termes express, et les écrivains sacrilèges qui n'ont pas craint d'altérer si souvent les paroles de l'Écriture auraient reculé devant une entreprise si criminelle. Mais l'ambition et l'audace ont été portées à un tel excès que la religion ne consiste plus maintenant à obéir aux commandements du Saint-Esprit, mais à soutenir les opinions chimériques des hommes. Ce n'est plus par la charité que l'on se montre animé d'une piété véritable. C'est en répandant la discorde et la haine, couverte du voile hypocrite d'un zèle ardent pour les choses de Dieu. À tous ces désordres, c'est venu joindre la superstition, qui apprend aux hommes à mépriser la raison et la nature, à n'admirer, à ne respecter que ce qui est contraire à l'une et à l'autre. Aussi ne faut-il point s'étonner de voir le vulgaire interpréter l'Écriture dans le sens le plus éloigné de la nature et de la raison, afin de la rendre d'autant plus merveilleuse et vénérable. On s'imagine que les saintes Écritures cachent de profonds mystères, et sur ce fondement, on néglige ses plus utiles renseignements pour se fatiguer à la poursuite d'absurdes chimères. Ce qu'enfante l'imagination en délire dans cette recherche insensée, on ne manque pas de l'attribuer au Saint-Esprit, et partant de s'y attacher avec une énergie et un emportement incroyables. La nature humaine est ainsi faite, ce qu'elle conçoit par le pur entendement, elle ne l'embrasse que d'une conviction sage et raisonnable. Mais les opinions qui naissent en elle du mouvement des passions lui inspirent une conviction ardente et passionnée comme la source d'où elles émanent. Pour nous, si nous voulons nous séparer de cette foule agitée des théologiens vulgaires et, délivrant notre âme de leurs vains préjugés, ne pas nous exposer à confondre les opinions toutes humaines avec les enseignements divins, nous devons nous tracer pour l'interprétation des livres saints une méthode sûre, sans laquelle toute connaissance certaine de la pensée du Saint-Esprit est évidemment impossible. Or, pour caractériser d'avance notre pensée en peu de mots, nous croyons que cette méthode pour interpréter sûrement la Bible, loin d'être différente de la méthode qui sert à interpréter la nature, lui est au contraire parfaitement conforme. Quel est en effet l'esprit de la méthode d'interprétation de la nature? Elle consiste à tracer avant tout une histoire fidèle de ces phénomènes, pour aboutir ensuite, en partant de ces données certaines, à d'exactes définitions des choses naturelles. Or, c'est exactement le même procédé qui convient à la Sainte Écriture. Il faut premièrement en faire une histoire fidèle, et se former ainsi un fond de données et de principes bien assurés, d'où l'on déduira plus tard la vraie pensée des auteurs de l'Écriture par une suite de conséquences légitimes. Quiconque pratiquera cette méthode, pourvu qu'il ne se serve dans l'interprétation de l'Écriture d'autres données ni d'autres principes que ceux qui sont contenus dans son histoire, est parfaitement certain de se mettre à l'abri de toute erreur et de pouvoir discuter sur des objets qui passent la portée humaine avec la même sécurité que sur les choses qui sont du ressort de la raison. Mais pour qu'il soit bien établi que la route que je trace non seulement est sûre, mais a seule ce caractère et se trouve en parfait accord avec la méthode qui sert à interpréter la nature, je dois faire remarquer que les livres saints contiennent un grand nombre de choses sur lesquelles la raison naturelle ne fournit aucune lumière. Car ce qui fait la plus grande partie de l'Écriture, ce sont des récits historiques et des révélations. Or, ces récits ne contiennent guère que des miracles, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent, des phénomènes extraordinaires, où se mêlent toujours les opinions et les jugements de ceux qui les racontent. Et quant aux révélations, nous avons montré dans notre chapitre 2 qu'elles sont également accommodées aux opinions des prophètes. Et d'ailleurs, en elles-mêmes, elles surpassent la portée de l'esprit humain. Par conséquent, pour connaître toutes ces choses, c'est-à-dire presque tout ce qui est contenu dans l'Écriture, il ne faut consulter que l'Écriture elle-même. De même que pour connaître la nature, c'est la nature seule qu'il faut interroger. Je sais bien que l'Écriture contient aussi des prescriptions morales qui se peuvent déduire de la raison naturelle. Mais ce que la raison ne nous apprend pas, c'est qu'il y a effectivement dans le livre saint de telles prescriptions morales. Et ce point ne peut être éclairci que par la lecture seule des livres saints. Je dis plus. Si nous voulons constater, d'un esprit libre de tout préjugé, la divinité de l'Écriture, il est nécessaire que nous sachions par elle-même qu'elle enseigne une morale vraie. Autrement, nous n'aurions plus aucun moyen de prouver que l'Écriture est divine, puisque la certitude des prophéties nous a été principalement démontrée par la droiture et la sincérité des prophètes. Il faut donc que la pureté de leur morale soit parfaitement établie pour que nous puissions avoir foi dans leurs paroles. Quant aux miracles, outre que les faux prophètes en pouvaient faire, nous avons déjà établi qu'ils sont incapables de nous convaincre de l'existence de Dieu. Il ne reste donc qu'un moyen de constater la divinité de l'Écriture, c'est de faire voir qu'elle enseigne la véritable vertu. Or, l'Écriture seule peut nous donner des preuves à cet égard, et si elle en était incapable, elle perdrait ses droits à notre confiance, et sa divinité ne serait qu'un préjugé. Je conclus donc que la connaissance tout entière de l'Écriture ne doit être demandée qu'à l'Écriture elle-même et à elle seule. J'ajoute que l'Écriture sainte ne nous donne point les définitions des choses, pas plus que ne le fait la nature. D'où il suit qu'il faut déduire ces définitions des récits que l'Écriture nous présente sur chaque sujet, de même que, pour obtenir les définitions des choses naturelles, on les tire de l'examen des actions diverses de la nature. Voici donc finalement la règle générale pour interpréter les livres saints. N'attribuez à l'Écriture aucune doctrine qui ne ressorte avec évidence de son histoire. Or, comment doit se faire l'histoire de l'Écriture et à quel récit doit-elle principalement s'attacher? C'est ce que je vais expliquer à l'instant même. 1. Elle doit premièrement expliquer la nature et les propriétés de la langue dans laquelle les livres saints ont été écrits et qui a été parlée par leurs auteurs. À cette condition seule, on pourra découvrir tous les sens que chaque passage peut admettre d'après les habitudes du langage ordinaire. Or, comme tous les écrivains tant de l'Ancien Testament que du Nouveau sont juifs, il s'ensuit que l'histoire de la langue hébraïque est nécessaire avant tout autre, non seulement pour l'intelligence des livres de l'Ancien Testament qui ont été écrits dans cette langue, mais même pour celle du Nouveau, par la raison que les livres de l'Évangile, bien qu'ils aient été répandus dans d'autres langues, n'en sont pas moins pleins d'hébraïsme. 2. L'histoire de l'Écriture doit en second lieu recueillir les sentences de chaque livre et les réduire à un certain nombre de chefs principaux afin qu'on puisse voir d'un seul coup la doctrine de l'Écriture sur chaque matière. Il faut aussi noter avec soin les pensées obscures et ambiguës qui s'y rencontrent et celles qui semblent se contredire l'une l'autre. On distinguera une pensée obscure d'une pensée claire, suivant que le sens en sera difficile ou aisé pour la raison, d'après le texte même du discours. Car il ne s'agit que du sens des paroles sacrées, et point du tout de leur vérité. Et ce qu'il y a de plus à craindre en cherchant à comprendre l'Écriture, c'est de substituer au sens véritable un raisonnement de notre esprit, sans parler des préjugés qui sans cesse nous préoccupent. De cette façon, en effet, au lieu de se réduire au rôle d'interprète, on ne fait plus que raisonner suivant les principes de la raison naturelle, et l'on confond le sens vrai d'un passage avec la vérité intrinsèque de la pensée que ce passage exprime, deux choses parfaitement différentes. Il ne faut donc demander l'explication de l'Écriture qu'aux usages de la langue ou à des raisonnements fondés sur l'Écriture elle-même. Pour rendre tout ceci plus clair, je prendrai un exemple. Moïse a dit que Dieu est un feu, que Dieu est jaloux. Rien de plus clair que ces paroles à ne regarder que la signification des mots. Ainsi, je classe ce passage parmi les passages clairs, bien qu'au regard de la raison et de la vérité, il soit parfaitement obscur. Ce n'est pas tout. Alors même que le sens littéral d'un passage choque ouvertement la lumière naturelle, comme dans l'exemple actuel, je dis que ce sens doit être accepté s'il n'est pas en contradiction avec la doctrine générale et l'esprit de l'Écriture. Si au contraire, il se rencontre que ce passage, interprété littéralement, soit en opposition avec l'ensemble de l'Écriture, alors même qu'il serait d'accord avec la raison, il faudrait l'interpréter d'une autre manière, je veux dire au sens métaphorique. Si donc on veut résoudre cette question, Moïse a-t-il cru, oui ou non, que Dieu soit un feu? Il n'y a pas lieu de se demander si cette doctrine est conforme ou non conforme à la raison. Il faut voir si elle s'accorde ou si elle ne s'accorde pas avec les autres opinions de Moïse. Or, comme en plusieurs endroits, Moïse déclare expressément que Dieu n'a aucune ressemblance avec les choses visibles qui remplissent le ciel, la terre et l'eau, il s'ensuit que cette parole « Dieu est un feu » et toutes les paroles semblables doivent être entendues métaphoriquement. Maintenant, comme c'est aussi une règle de critique de s'écarter le moins possible du sens littéral, il faut se demander avant tout si cette parole « Dieu est un feu » n'admet point d'autre sens que le sens littéral, c'est-à-dire si ce mot de « feu » ne signifie point autre chose qu'un feu naturel. Et supposer que l'usage de la langue ne lui donna aucune autre signification, on devrait se fixer à celle-là, quoiqu'elle choque la raison. Et toutes les autres pensées de l'écriture, bien que conformes à la raison, devraient se plier à ce sens. Que si la chose était absolument impossible, il n'y aurait plus qu'à dire que ces diverses pensées sont inconciliables et à suspendre son jugement. Mais dans le cas dont nous parlons, comme ce mot « feu » se prend aussi pour la colère et pour la jalousie, voyez Job, chapitre 31, verset 13, on concilie aisément les paroles de Moïse et l'on aboutit à cette conséquence que ces deux pensées, « Dieu est un feu, Dieu est jaloux », sont une seule et même pensée. Moïse ayant d'ailleurs expressément enseigné que Dieu est jaloux, sans dire nulle part qu'il soit exempt des passions et des affections de l'âme, il ne faut pas douter que Moïse n'ait admis cette doctrine, ou du moins n'ait voulu la faire admettre, bien qu'elle soit contraire à la raison. Car nous n'avons pas le droit, je le répète, d'altérer l'écriture pour l'accommoder aux principes de notre raison et à nos préjugés. Et c'est à l'écriture elle-même qu'il faut demander sa doctrine tout entière. 3. La troisième condition que doit remplir l'histoire de l'écriture, c'est de nous faire connaître les diverses fortunes qu'ont pu subir les livres des prophètes dont la mémoire s'est conservée jusqu'à nous, la vie, les études de l'auteur de chaque livre, le rôle qu'il a joué, en quel temps, à quelle occasion, pour qui, dans quelle langue il a composé ses écrits. Cela ne suffit pas. Il faut nous raconter la fortune de chaque livre en particulier, nous dire de quelle façon il a été d'abord recueilli et en quelles mains il est successivement tombé, les leçons diverses qu'on y a vues, qu'il a fait mettre au rang des livres sacrés, comment enfin tous ces ouvrages, qui sont universellement reconnus comme divins, ont été rassemblés en un seul corps. Voilà ce que doit renfermer l'histoire de l'écriture. Pour distinguer en effet les pensées qui ont le caractère d'une loi, de celle qui renferme simplement un enseignement moral, il est nécessaire de connaître la vie, les mœurs et les études de l'écrivain sacré. Ajoutez qu'il est d'autant plus facile d'interpréter les paroles d'un auteur que l'on connaît mieux son tour d'esprit et son caractère. De même, pour ne pas confondre les préceptes éternels de la loi de Dieu avec ceux qui n'ont rapport qu'à un certain temps et à un petit nombre d'hommes, il importe de ne point ignorer à quelle occasion, en quel temps, pour quelle nation et quelle époque ces préceptes ont été écrits. C'est enfin une chose indispensable de remplir toutes les autres conditions que nous avons indiquées, non seulement pour établir l'authenticité de chaque livre, mais pour savoir si des mains adultères n'en ont point altéré le texte, si les erreurs ne s'y sont point glissées, si les corrections convenables ont été faites par des hommes capables et dignes de foi. Toutes ces précautions, je le répète, sont nécessaires pour quiconque ne veut s'attacher dans l'écriture qu'à ce qui est certain et indubitable, au lieu de se jeter aveuglément sur tout ce qui lui est présenté. Quand nous aurons ainsi établi solidement l'histoire de l'écriture et pris la ferme résolution de n'y rien reconnaître comme doctrine des prophéties qui ne résultent de cette histoire et n'en puissent être très clairement déduits, le moment sera venu alors de nous attacher à l'interprétation des prophètes et de l'Esprit-Saint. Ici, l'ordre qu'il faut suivre, la méthode qu'il convient d'appliquer, sont exactement les mêmes qu'on emploie pour interpréter la nature d'après son histoire. Car, comme dans l'étude de la nature, on commence par les choses les plus générales et qui sont communes à tous les objets de l'univers, c'est à savoir le mouvement et le repos, leurs lois et leurs règles universelles que la nature observe toujours, et par qui se manifeste sa perpétuelle action, descendant ensuite par degrés aux choses moins générales. De même, dans l'histoire de l'écriture, il faut d'abord chercher ce qu'il y a de plus universel, ce qui fait la base et le fondement de tout le reste, ce qui exprime la doctrine qu'ont enseigné les prophètes pour les intérêts éternels de tout le genre humain. Par exemple, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, seul tout-puissant, seul adorable, qui prend soin de tous les hommes, et chérit entre tous ceux qui l'adorent et qui aiment leur prochain, etc. Voilà des principes que l'Écriture proclame sans cesse en des termes si express et si clairs que personne n'a jamais pu avoir sur ce point la moindre certitude. Maintenant, qu'est-ce que Dieu ? Comment peut-il tout connaître et étendre sa providence à tout ? Ce sont là des points sur lesquels l'Écriture ne s'explique pas ex professo et ne dit rien qui ait le caractère d'une doctrine éternelle. Tout au contraire, nous avons fait voir plus haut que les prophètes ne s'accordent pas à cet égard, et par conséquent, on ne doit rien établir sur tous ces objets à titre de doctrine du Saint-Esprit, bien que la lumière naturelle soit capable de les éclaircir parfaitement. La doctrine générale de l'Écriture, une fois bien connue, il faut descendre à des choses plus particulières, lesquelles néanmoins se rapportent à la pratique de la vie et découlent de la doctrine universelle des livres saints comme des ruisseaux d'une source commune. Telles sont toutes les actions particulières et extérieures de la véritable vertu, qui ne doivent être pratiquées qu'en des circonstances déterminées. Que s'il se rencontre sur ce point des passages obscurs ou ambigus, il les faut expliquer ou éclaircir par la doctrine générale des saints livres, et dans le cas où on en trouverait de contradictoires, on doit se demander alors à quelle occasion, en quel temps et pourquoi ces passages ont été écrits. Par exemple, quand Jésus-Christ dit « Bienheureux les affligés car ils seront consolés », ce texte ne nous apprend point de quelle sorte d'affligés il s'agit. Mais comme Jésus-Christ nous enseigne ensuite, Matthieu chapitre 6 verset 33, de n'avoir d'autre soin que celui du royaume de Dieu et de sa justice, c'est-à-dire de souverain bien, il s'ensuit que dans le passage cité, il a entendu désigner ceux qui s'affligent de ne point posséder le royaume de Dieu et de voir la justice négligée parmi les hommes. Ce sont là, en effet, les deux seules causes possibles d'affliction pour ceux qui n'aiment que le royaume de Dieu ou l'équité et qui méprisent tous les autres biens que donne la fortune. De même encore, quand Jésus-Christ dit « Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui la joue gauche » et tout ce qui suit, on ne peut pas croire que Jésus-Christ ait prononcé ces paroles à titre de législateur s'adressant à des juges. Car alors, Jésus-Christ serait venu détruire la loi de Moïse, ce qui eût été contraire à sa mission, comme il le déclare lui-même expressément. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Il faut donc considérer ici le caractère de celui qui a prononcé ces paroles, le temps où il les a dites et les personnes à qui il les a adressées. Or, le Christ n'est point venu instituer des lois à titre de législateur, mais donner un enseignement moral à titre de docteur. Et ce qu'il voulait réformer, ce n'était point les actions extérieures, mais le fond des cœurs. Ajoutez à cela qu'il s'adressait à des hommes opprimés, qui vivaient dans un état corrompu, où la justice négligée faisait pressentir une dissolution prochaine. Or, on remarquera que ces mêmes paroles que prononce Jésus au moment d'une ruine prochaine de Jérusalem, nous les trouvons dans Jérémie, qui les adressait aux Juifs dans une circonstance toute semblable lors de la première dissolution de Jérusalem. Voyez Lamentations, chapitre 3. Les prophètes, n'ayant donc jamais enseigné cette doctrine que dans les temps de dissolution, sans qu'elle ait jamais pris le caractère d'une loi, comme nous savons d'ailleurs que Moïse, qui n'écrivait pas à une époque d'oppression et de malheur, et n'avait d'autre soin, remarquons-le bien, que d'établir un excellent corps de loi, comme Moïse, dis-je, tout en condamnant la vengeance et la haine du prochain, a cependant établi cette règle, œil pour œil, dent pour dent. Il est clair que le précepte de Jésus-Christ et de Jérémie, sur le pardon des injures et le devoir de céder toujours aux méchants, ne soit applicable qu'aux époques d'oppression et dans un état où la justice est négligée, et non point dans un état bien réglé. Car au contraire, dans un état bien réglé, où la justice est exactement maintenue, tout citoyen est obligé, pour conserver sa réputation d'homme juste, d'exiger devant le magistrat la réparation des torts qu'on a pu lui faire. Voyez Lévitique, chapitre 5, verset 1. Non point par le désir de la vengeance, voyez Ibid, chapitre 11, verset 17-18, mais pour que la justice et les lois de la patrie soient défendues, et que les méchants ne jouissent pas de l'impunité. Or, tout cela est parfaitement d'accord avec la raison naturelle. Je pourrais citer une foule d'exemples du même genre, mais j'en ai assez dit pour éclaircir ma pensée et faire sentir l'utilité de ma méthode, ce qui est ici mon principal objet. Je n'ai parlé jusqu'à ce moment que des passages de l'Écriture qui se rapportent à la pratique de la vie. Or, l'interprétation de ces passages ne présente aucune difficulté sérieuse et n'a jamais suscité aucune controverse entre les auteurs qui ont écrit sur la Bible. Il en est tout autrement de cette partie des livres saints qui a trait à des points de spéculation. Ici, la voie devient beaucoup plus étroite. Les prophètes, en effet, n'étant pas d'accord entre eux sur les choses spéculatives, comme nous l'avons démontré ci-dessus, et leur récit étant accommodé aux préjugés des temps divers où chacun d'eux a vécu, il s'ensuit qu'on n'a pas le droit d'éclaircir les points obscurs de tel ou tel prophète, à l'aide des passages plus clairs d'un autre prophète, à moins qu'il ne soit parfaitement établi qu'ils ont eu les mêmes sentiments. Comment faire en ces rencontres pour découvrir la pensée des prophètes au moyen de l'histoire de l'Écriture ? C'est ce que je vais expliquer brièvement. Il faut, premièrement, suivre le même ordre dont nous avons déjà parlé, et commencer par les choses les plus générales, en s'efforçant avant tout d'apprendre, par les plus clairs endroits de l'Écriture, ce que c'est que prophétie ou révélation, et en quoi elle consiste principalement. Il faut examiner ensuite la nature du miracle, et continuer ainsi d'éclaircir les notions les plus générales qui se rencontrent dans les livres saints. De là, il faut descendre aux opinions particulières de chaque prophète, et enfin, au sens de chaque révélation ou prophétie, de chaque récit historique, de chaque miracle. De quelles précautions il convient d'user dans cette recherche pour ne point confondre la pensée des prophètes et des historiens avec celle du Saint-Esprit et la vérité même de la chose, c'est ce que j'ai précédemment rendu sensible par plusieurs exemples. C'est pourquoi je n'insisterai pas ici sur ce point, me bornant à ajouter, touchant le sens des révélations, que cette méthode nous fait découvrir seulement ce que les prophètes ont vu ou entendu, et non pas ce qu'ils ont voulu exprimer ou représenter au moyen de ces symboles. Cela peut sans doute se deviner, mais cela ne peut se déduire rigoureusement des paroles de l'Écriture. Voici donc la vraie méthode pour interpréter l'Écriture sainte. Il est bien établi qu'elle est la voie la plus sûre, la voie unique qui nous fasse pénétrer jusqu'à son véritable sens. J'avoue que si l'on avait entre les mains, par une tradition certaine, l'explication véritable des prophéties recueillies de la bouche même des prophètes, et telle que les pharisiens se vantent de la posséder, ou bien si l'on pouvait s'adresser, comme font les catholiques romains, à un pontife qui, à les en croire, est infaillible dans l'interprétation des livres saints, j'avoue alors que l'on posséderait une certitude plus grande que celle que je propose. Mais comme cette prétendue tradition est extrêmement incertaine, et l'infaillibilité du pape fort mal appuyée, on ne peut rien fonder de bien solide sur aucune de ces deux autorités, l'une qui a été niée par les plus anciens d'entre les chrétiens, l'autre que les plus anciennes sectes juives n'ont jamais reconnue. J'ajoute, pour ne rien dire de plus, que si l'on regarde à la suite des années telles que les pharisiens l'ont recueillie de leurs rabbins et par laquelle il faut remonter leur tradition jusqu'à Moïse, on la trouve entièrement fausse, ainsi que nous le prouverons ailleurs. Il faut donc tenir cette tradition pour très suspecte. Et bien que dans notre méthode nous soyons forcés de supposer quelques traditions des Juifs comme incorruptibles, savoir la signification des mots de la langue hébraïque qui nous ont été transmis par eux, cela ne nous oblige pas d'admettre aucune autre tradition. Si en effet il arrive souvent qu'on altère le sens d'un discours, il ne peut en être habituellement de même pour la signification d'un mot. Ici en effet, on rencontrerait des difficultés insurmontables, puisqu'il faudrait interpréter tous les auteurs qui ont écrit dans la même langue et se sont servis du même mot dans son sens usuel. Il faudrait, dis-je, interpréter chacun de ces auteurs conformément à son génie et à ses sentiments particuliers, ou bien altérer complètement sa pensée avec une adresse et des précautions infinies. D'ailleurs, le vulgaire et les doctes n'ont qu'une même langue, au lieu que ceux-ci sont seuls dépositaires du sens d'un discours et des livres. Ce qui fait bien comprendre que les savants aient pu aisément altérer ou corrompre le sens d'un livre très rare qu'ils avaient seuls entre les mains, tandis qu'ils n'ont jamais pu changer la signification des mots. Ajoutez à cela que si quelqu'un voulait altérer le sens d'un mot pour lui donner un nouveau sens, il aurait bien de la peine à s'y astreindre chaque fois qu'il aurait besoin de ce mot, soit en parlant, soit en écrivant. Concluons donc, par toutes ces raisons et une foule d'autres semblables, qu'il n'est jamais venu dans l'esprit de personne de corrompre une langue, mais qu'il a pu souvent arriver qu'on ait altéré la pensée d'un écrivain en changeant le texte de son discours ou en lui donnant une fausse interprétation. Et par conséquent, puisque notre méthode, qui consiste à ne demander la connaissance de l'Écriture qu'à l'Écriture elle-même, est la seule véritable méthode, toutes les fois qu'elle ne pourra nous fournir l'explication fidèle d'un passage des livres saints, il faudra désespérer de la trouver. Expliquons maintenant les difficultés de cette méthode et ce qui peut lui manquer pour nous donner une connaissance exacte et certaine des livres sacrés. La première et la principale difficulté, c'est qu'il faut posséder parfaitement la langue hébraïque. Or, d'où tirer cette connaissance ? Les anciens grammairiens hébreux ne nous ont rien laissé sur les fondements de cette langue et sur sa théorie. Quant à nous, du moins, nous n'en voyons aucun vestige. Nous n'avons ni dictionnaire, ni grammaire, ni rhétorique hébraïque. La nation juive a perdu toute sa gloire et tout son éclat. Et faut-il s'en étonner après les malheurs et les persécutions qu'elle a souffert ? À peine a-t-elle conservé quelques débris de sa langue, quelques monuments de sa littérature. La plupart des noms, ceux des fruits, des oiseaux, des poissons, ont péri par l'injure du temps. la signification d'une foule de mots et de verbes qu'on rencontre dans la Bible est ignorée ou livrée à la controverse. Mais ce n'est pas tout encore. La syntaxe de cette langue n'existe plus, et la plupart des termes et des locutions propres à la nation hébraïque n'ont pu résister à l'action dévorante du temps qui les a effacés de la mémoire des hommes. On constate donc qu'il ne nous sera pas toujours possible de trouver, comme nous le voudrions, tous les sens que chaque passage a pu recevoir des habitudes de la langue, et qu'il devra se rencontrer beaucoup d'endroits dont le sens paraîtra fort obscur et presque inintelligible, bien qu'il soit composé de termes très connus. Ajoutez à ce défaut d'une histoire complète de la langue hébraïque les difficultés qui naissent de la constitution et de la nature même de cette langue, elles sont si grandes et les ambiguïtés reviennent si souvent qu'une méthode capable de donner le vrai sens de tous les passages de l'écriture est quelque chose d'absolument impossible. On s'en convaincra si l'on veut remarquer qu'outre les causes d'ambiguïté communes à toutes les langues, il en est qui sont particulières à la langue hébraïque et d'où sortent une infinité d'équivoques inévitables. C'est ce que je crois utile d'expliquer ici avec l'étendue convenable.